Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Les forces de l'ordre ont dispersé vendredi le sit-in prévu à Kinshasa par l'opposition politique aux abords du Parlement. L'opposition qui a dénoncé ces jours deux morts et plusieurs blessés, parmi lesquels Martin Fayoulou, Delis Essanga et Jean-Marc Kabound, a aussi parlé d'usage d'armes à feu et un usage disproportionné de la force. De nombreuses organisations des droits de l'homme ont condamné cette situation, réclamant la justice et des enquêtes indépendantes pour établir les sanctions et les responsabilités. Réagissant un jour après les incidents de vendredi, le gouvernement congolais reconnaît des blessés lors de ces manifestations, mais aussi des dégâts matériels significatifs, parmi lesquels plusieurs véhicules incendiés, ainsi que la destruction des biens publics et privés. Tout en réaffirmant son attachement aux libertés publiques garanties par la Constitution, notamment la liberté d'expression, des réunions et des manifestations pacifiques, l'exécutif rappelle que l'exercice de ses droits doit se faire dans le respect des lois de la République, de l'ordre public, ainsi que de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouvernement annonce par ailleurs avoir instruit les services compétents de mener les vérifications nécessaires afin de faire toute la lumière sur les incidents enregistrés. Quelle lecture faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Il est député national honoraire, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka. Il est également notable de la province du Nord Kivu. Bonsoir honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Kimwate et mes condoléances à toutes les familles éprouvées, non seulement à Béni et dans les territoires occupés, mais également les familles éprouvées à la suite de la répression violente du sit-in de ce vendredi dernier à Kinshasa.
Et ici au studio, Christian Moleka, il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir Christian Moleka.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et en ligne, Peter Kazadi, il est avocat, il est député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Peter Kazadi. Honorable Peter Kazadi, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment il n'est pas encore là. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, plusieurs blessés et des disparus. Bilan encore provisoire dressé par l'opposition politique à la suite d'une manifestation vendredi aux abords du Palais du Peuple, ici à Kinshasa. Des coups de feu, des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser des militants de l'opposition venus participer à un sit-in relocalisé au terrain à Sossa dans la commune de Kasavubu. Les organisateurs dénoncent l'usage disproportionné de la force par les services de sécurité. Cette manifestation visait notamment à dénoncer la proposition des lois sur l'organisation des référendum perçu par ses initiateurs comme une tentative de changement de la Constitution. Récit des faits avec Grace Amzati.
La matinée est restée calme malgré l'important dispositif sécuritaire déployé autour du Palais du Peuple. Des dizaines d'éléments de la police nationale congolaise ont été positionnés sur les principaux axes menant au siège du Parlement pour empêcher tout rassemblement en marge de ces sit-ins interdits la veille par les autorités de Kinshasa. La situation bascule en début d'après-midi. Des militants de l'opposition réunis au siège de l'SID de Martin Fayoulou sur le boulevard Triomphal tentent de marcher vers le palais du peuple. Pour les disperser, la police fait usage de gaz lacrymogènes et tire plusieurs coups de sommation. S'en suivent des scènes de panique avec des personnes courant dans tous les sens tandis que la circulation est fortement perturbée dans les secteurs. Après plus d'une heure de face-à-face avec les forces de l'ordre, les manifestants sont finalement repoussés à plusieurs centaines de mètres du Parlement. Contactés par Radio Okapi, les organisateurs avancent un bilan provisoire des deux militants de l'SID tués et de plusieurs blessés graves, dont les opposants Martin Fayoulou, Delis Essanga, Jean-Marc Kabound et Ados Ndombassi. Des allégations non confirmées par les sources officielles. Depuis le Palais du Peuple, Grâce Amzati, Masanzi, Radio Okapi.
Merci à vous, grâce à vous. Je rappelle que vous êtes notre permanent, n'est-ce pas, au Parlement. En réaction, les porte-parole de la coalition Lamouka a parlé de plusieurs morts tués par la police et des personnes blessées par des éléments des forces du progrès. Parmi les blessés, Prince Epengue cite nommément le leader de l'ECID, Martin Fayoulou, le président de l'Ambol, Delis Essanga et Adossé Ndombassi. Prince Epengue, porte-parole de la coalition Lamouka, dans ses propos recueillis par Radio Kapi.
Plus de 20 000 Congolais sont arrivés pour se rendre dans les palais du peuple, pour défendre leur constitution, pour dire qu'il n'y aura jamais de référendum sale Nord Kivu, sale de Sud Kivu. Malheureusement, Félix Tshisekedi a envoyé la police militaire PEM et la force du progrès qui ont lassé l'assaut. Après deux heures, trois heures de résistance de tous les leaders de l'opposition, de tous les membres de la population qui a accompagné la coalition 604, eh bien, la police a commencé au bout d'une heure à tirer à balles réelles et à bout comptant, tirer sur les corps en visant les hommes, les jeunes, les femmes. Il y a eu plusieurs morts. Ce qui est sûr, c'est que la police s'est tuée et a emporté les corps et disparaissait avec eux. Dans cette confusion, le président Fayoulou a été touché et blessé. Et le président Sessanga, Adossé Ndombassi, le prince Epengue, nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont touchés par des balles, il y en a qui sont touchés par les machettes.
Pour la majorité, toute l'organisation de l'opposition de ce vendredi autour du Palais du Peuple n'est qu'un mensonge. Il n'y a pas eu de morts. Le secrétaire général de l'UDPS accuse d'ailleurs l'opposition de s'imbiber des concentrés de tomates sur les habits pour les faire passer pour du sang. Augustin Kabouya s'exprime une fois de plus au micro de Radio Kapi.
D'abord, l'opposition n'est pas sincère dans ce qu'elle fait. L'opposition avait parlé des sit-in devant le Palais du Peuple. Nulle part, l'opposition avait parlé d'une marche. Et subitement, nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux que la marche de l'opposition dispersait, ainsi de suite. Nous disons, ok, on avance. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse dans l'opposition. Je sais comment est-ce qu'on pousse un régime à la faute. Ils ont tenté de le faire. Nous avons dénoncé cette histoire la nuit du 2 juin au 3 juin. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient planifié pour faire les 3. Mais comme on avait dénoncé ça, ils avaient manqué comment exécuter leur sale besogne. Ils vous parlent de la force du progrès. C'est faux et archi-faux. Ils ont fabriqué leur propre force du progrès pour exécuter la mission. C'est ce qui s'est passé.
Ils disent qu'il y a eu même des morts et que les corps auraient été ramassés par la police.
Je connais mes amis là, nous étions tous ensemble. Ils ont fabriqué des histoires pour faire entendre leur voix. Mais en réalité, il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'ils disent. Ils sont conscients. Tiens, il y a des gens qui ont utilisé même des boîtes de tomates pour montrer qu'il y a du sang, ce qui n'est pas vrai.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka, vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. D'abord, à ces jours, quel est le bilan de la répression de ces vendredis lors du sit-in que vous avez organisé?
Merci Kimate. Nous félicitons tous les Congolais qui ont répondu courageusement à l'appel de la coalition 164 pour défendre l'ordre constitutionnel malgré la répression, malgré les menaces, malgré les intimidations. Alors, la coalition article 64 annonce la tenue d'une grande réunion d'évaluation demain, à l'occasion de laquelle chaque parti et organisation membre va présenter les bilans, n'est-ce pas, du monitoring de la répression. Et à l'issue de cette réunion, C64 va rendre public également la suite du calendrier des actions citoyennes, parce que qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons mettre en échec cette entreprise des rébellions que mène le pouvoir de Félix contre la Constitution.
Est-ce qu'il y a eu des morts parmi les victimes?
Au niveau de l'ECID, voici les bilans provisoires. Rien que pour l'ECID. D'abord, il y a eu deux corps qui ont été emportés. L'un par force de progrès qui l'ont remis à la police devant le boulevard Triomphal. C'est le corps de M. Kabeya Ngadiadia. Ensuite, sur l'avenue de l'enseignement,
un militant qui a sauté les murs, n'est-ce pas, du siège de l'SID, a reçu une balle au tronc, une balle tirée par un élément de la garde républicaine. Il est tombé et la garde républicaine a emporté son corps. Raison pour laquelle l'SID a parlé de deux morts. Le samedi, alors que nous étions...
Parmi les morts, la personne qui a été identifiée, c'est Kabeya Ngadiadja.
Kabeya Ngadiadja.
L'autre, vous ne connaissez pas son nom.
Le nom n'est pas encore connu.
Mais vous êtes certain qu'il est mort.
Nous avons des témoignages. Il est tombé. Il y a un camarade militaire de l'SID qui voulait qu'il le tire pour le sauver là, pendant qu'il respirait encore. Les éléments de la garde républicaine ont avancé vers lui. Le camarade a abandonné l'autre qui était gisant. Et à son retour, il a demandé à ceux qui étaient dans l'entourage, qui lui ont donné le témoignage, que les éléments de la garde républicaine l'ont emporté. Alors, il faut préciser pour ceux qui étaient Kabeya, le samedi, alors que nous étions en train de faire le monitoring des cachots pour voir l'état des nôtres qui étaient arrêtés, arrivés au niveau du Kalufungula. Alors que nous y avons retrouvé le président de Sapu, de CNDH, Paul Sapu, c'est alors que le commissaire de la police nous dit que non, il y a un militant qui est gravement, qui est agonissant à l'hôpital. Nous sommes partis avec Paul Sapu et tous les services, nous l'avons retrouvé effectivement agonissant. Donc, étant donné que celui-là était encore agonissant, ils ont eu le courage de nous le montrer. Mais qu'en est-il de l'autre qu'ils ont emporté? Pourquoi ils ne se donnent pas la peine, la garde républicaine ne se donne pas la peine de nous le montrer?
Et celui qui a agonisé, est-ce qu'il est mort?
Il n'est pas encore mort. Nous sommes allés...
Il n'est pas mort.
Il n'est pas mort.
Heureusement.
Nous sommes allés, nous l'avons amené ce soir même pour faire le scanner. Et aujourd'hui, les résultats sont sortis. Le médecin a confirmé qu'il est effectivement dans un état très très grave. Nous appelons le pouvoir à tout faire pour sauver sa vie, parce que nous avons toutes les preuves que ce sont eux qui l'ont tué.
Et donc, il y a eu un mort et plusieurs blessés. Combien de blessés?
Alors, nous avons également 13 personnes qui manquent à l'appel, nommément identifiées, des membres de l'SID.
Des personnes qui ont disparu.
Je peux vous donner leur nom. Alors, à part cela, nous avons 147 blessés graves, nommément identifiés. Parmi ces 147 blessés graves, nous avons effectivement le président élu Martin Fayoulou, qui a été blessé intentionnellement à la tête. Nous avons des vidéos qui nous montrent les auteurs de cette agression contre son intégrité physique. Et lorsque vous voyez, vous observez...
Il ne s'est pas imbibé de tomates comme l'a dit la secrétaire générale de l'IDPS?
Non seulement la secrétaire, il y a la dame, la vice-ministre de l'Intérieur, qui une dame exprime une insensibilité d'un grand niveau, eh bien, c'est horrible. Donc, nous avons... Vous avez suivi, Martin Fayoulou est allé aux soins ce matin et... Vous avez les témoignages, vous n'avez qu'à accéder à tous les bulletins. Mais je disais, voyez là où Martin Fayoulou est visé à la tête. Denis Sanga, visé au niveau des parties intimes. Kabound de même. Nous voyons un caractère ciblé, dont l'objectif est de neutraliser, rendre important les dirigeants de la coalition 164, avec objectif... de neutraliser la contestation. Dieu merci que nous en sommes sortis. Donc, non seulement, et je disais, 147 blessés graves, rien que pour les SID. Prenez le nombre de blessés graves chez Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboum, chez Avol, chez Assemble, tous les autres partis de la coalition. Vous risquez d'avoir un bilan au-delà de 800 blessés.
Donc on aura tous les chiffres demain.
Tous les chiffres seront communiqués demain.
Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette violence pour une manifestation qui était officiellement une manifestation pacifique?
Vous avez les sièges de l'SID vandalisés, 8 véhicules devant les sièges de l'SID incendiés, 2 véhicules caillassés, ça parlait d'autres... Alors...
Ça c'est le bilan. Qu'est-ce qui a déclenché la violence?
Nous avons été avec le gouverneur de la ville, le jeudi. Et c'est à 20h qu'il nous annonce la décision de la délocalisation de la manifestation vers Asosa. Nous lui avons dit, monsieur le gouverneur, pourquoi vous n'avez pas annoncé cette proposition 48 heures avant? Et vous attendez le soir, soit à moins de 10 heures de la tenue du sit-in, parce que votre intention, c'est de faire échouer notre manifestation. Deuxième raison du rejet de sa proposition. Nous voulons adresser notre message aux parlementaires qui ont initié et adopté la loi par laquelle le régime de M. Félix veut contourner les limites, les verrous constitutionnels de l'article 220 en vue de remettre à zéro les compteurs des mandats et de donner à M. Tshisekedi un nombre de mandats illimité. Nous voulons nous adresser donc, disions-nous, aux parlementaires, et il n'y a pas de raison que nous allions vers un marché à Sousa. Alors, nous avons convenu que malgré la répression, malgré les menaces, les dispositifs policiers et militaires, nous allions tenir une manifestation pacifique sur l'esplanade du Palais du Peuple. Marthe Fayoulou, Sesanga Kabound et tous les dirigeants ont donné des consignes que s'ils nous répriment, faisons comme lors de la manifestation des chrétiens du 16 février. Mettez-vous assis, n'est-ce pas, sur le boulevard. Et si...
Triomphal.
Et s'ils vont tirer sur nous, qu'ils le fassent. Nous sommes donc sortis avec ces consignes-là. Et lorsque nous les avons trouvés devant les robots, nous nous sommes mis à genoux. Mais, curieusement, nous avons vu la police agir avec des personnes en tenue civile. La fameuse milice Force du Progrès, qui est venue avec des machettes, avec des bâtons, avec des pierres. Et c'est alors que les violences se sont intensifiées. En dépit de cela, nous avons tenu à progresser. Personnellement, je suis de ceux qui sont arrivés le premier sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et Marthe Fayoulou, Sesanga, Jean-Marc Kabound avancé. C'est alors que la violence s'est intensifiée. Les vidéos sont disponibles, vous les suivez. On a visé Marthe Fayoulou au niveau de la tête. Les éléments de la police qui tapent intentionnellement à 3-4 reprises, qui s'apprennent à toute sa garde. J'ai été giflé, mes lunettes ont été cassées à l'occasion même. Et donc, ils ont coupé les groupes à deux, et ils ont encerclé, dispersé les groupes de Marthe Fayoulou. Ils nous ont menés des part et d'autre, et pour nous replier dans les sièges télécidés. Après notre repli au siège télécidé, c'est alors que la milice Force du Progrès était à la première ligne, en train de vandaliser les sièges, la police qui venait derrière la milice, et de l'autre côté, disais-je, sur l'enseignement, vous aviez les éléments de la garde républicaine. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette coalition avec une milice privée. Cela rappelle la triste expérience de la Côte d'Ivoire qui a conduit la CPI à se saisir de Laurent Gbagbo. Ce dont nous avons vécu, ce que nous avons vécu au Kenya, à la base de la plainte contre l'ancien président Uhuru. Curieusement, c'est ce qui se reproduit dans notre pays.
Merci.
Nous voulons que le procureur près de la CPI, parce que la CPI est opérationnelle depuis 2004 dans notre pays, qu'il se saisisse le plus rapidement possible de cette situation.
Merci,
qui risque de dégénérer.
Et donc, si vous étiez resté au stade, ou vous étiez parti au stade, au terrain à Sosa, on aurait évité ces violences.
Il n'était pas question pour nous d'aller sur le terrain à Sosa.
Merci,
nous avons dit au gouverneur que les coûts de l'encadrement du sit-in sur l'esplanade du Palais du Peuple étaient de loin moins graves, moins importants que les coûts de la répression. Nous sommes au courant qu'avant le 12, plusieurs services se sont réunis pour planifier la violence.
Merci.
Et le moment venu, parce que nous sommes en train d'exiger qu'une enquête internationale et indépendante se tienne, nous allons apporter toutes ces informations sur les noms des commandants des unités qui ont opéré et sur tous les services de l'ordre qui ont collaboré avec cette milice de l'UDPS pour planifier cette violence contre les manifestants.
Merci. Peter Kazadi, est-ce que vous êtes là? Voilà, je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Et que répondez-vous plutôt aux accusations de l'opposition?
Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de saluer nos compatriotes éparpillés à travers la République, ceux qui sont connectés sur la radio Okapi. Je salue aussi mon frère Katsekwa et Christian. Malheureusement, je n'ai pas suivi l'intégralité de ces déclarations. J'en ai entendu de manière entrecoupée compte tenu de la ligne. Mais à ce que j'ai compris, il est en train d'acquiser les pouvoirs qui auraient envoyé la police et que cette dernière serait aussi accompagnée de ce qu'ils ont identifié comme les forces du progrès de l'IDPS. Ici, je tiens à dire que la police ne travaille pas avec des civils. Mais ce que je sais en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi en tant qu'ancien de l'opposition comme eux, la police, il y a deux parties de la police. Il y a la police visible et la police qui se dissimule dans la foule pour essayer d'isoler les meneurs des troupes. Alors, si eux confondent...
La police qui se dissimule dans la foule, elle est en civil.
Elle est en civil. Si Jean-Marie a fait l'opposition avec nous, il doit le savoir. Et c'est une stratégie qui s'est faite partout au monde. Donc, il y a la police visible pour intimider, il y a la police en tenue civile pour extirper les plus radicaux des manifestants. Ça s'est fait à travers le monde.
Et les policiers en tenue civile qui avaient des gourdins, des machettes, c'est toujours des policiers?
Je ne sais pas vous dire, je n'ai pas vu des policiers avec des boudins comme vous dites.
Gourdins,
ça fait partie des matériels de la police, non?
Machettes, pierres.
Par contre, j'ai vu parmi les manifestants de l'opposition des gens avec des machettes toutes neuves. Les images existent, je pense que vous devez avoir vu ces images. Il ne s'agissait pas en réalité d'une démarche pacifique comme ils l'ont annoncé. Vous savez, leur problème, c'est de montrer à l'opinion qu'ils existent, et cela même au prix du sang des Congolais. Donc, je voudrais dire par rapport à ce qu'on attribue à l'IDPS comme les forces du progrès, nous avons effectivement une structure affilié au parti qui s'appelle Force du Progrès, mais ceux-là ne peuvent pas aller faire le travail de la police. Par contre, nous assistons ces derniers jours à cette montée des gens à qui on donne les effigies de l'IDPS pour faire le désordre afin que cela soit attribué à l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS n'est plus dans l'opposition, nous sommes au pouvoir. L'État, c'est nous qui les dirigeons, nous avons les forces de l'ordre qui sont là, qui font leur travail, qu'on arrête de parler de cette histoire. Vous avez entendu Prince Epengue dire ici qu'on a tué beaucoup de gens, la police a amené des gens à des destinations inconnues, mais moi je mets au défi tout ce monde ici de nous indiquer les familles qui auraient perdu les leurs, puisqu'il a parlé de plusieurs personnes tués. Il a dit un grand nombre tués et la police les a amenés dans des destinations inconnues. Donc leur démarche consiste à grossir ce qui n'est pas gros, à se faire remarquer comme s'il y a une opposition qui existe. Ils ne sont qu'un petit nombre.
L'honorable Katekwa vient de dire qu'il vient de confirmer la mort de M. Kabeyanga Diadia. Est-ce que vous avez l'information?
Il est, je n'ai pas l'information, il est mort ces jours-là ou bien
Tu veux pendant cette manifestation-là?
Je n'ai pas l'information. J'ai entendu le gouverneur de la ville qui a reçu un rapport sécuritaire dire qu'il n'y a aucun, il n'y a pas eu de mort.
Alors, est-ce que cette violence-là était préméditée parce que l'opposition
oui, accuse d'avoir planifié
la répression?
La violence était planifiée par l'opposition. Je peux ici vous confirmer que la veille, puisque ce n'est pas un secret des policiers, nous sommes au pouvoir, nous avons plusieurs canaux d'information, notamment parmi eux, nous avons eu des informations comme quoi un groupe de gens a été drogué et positionné dans certaines permanences de ces partis politiques. Et c'est de là d'ailleurs qu'est partie la violence, il vient de le dire, ils sont sortis de leur quartier général, alors que normalement lorsqu'on fait des manifestations pareilles, même lorsque nous les organisions à l'époque, les gens venaient de toutes parts pour aller vers les points désignés. Mais ici, on a vu un groupe de jeunes gens manifestement drogués, munis de machettes, qui ont commencé à s'attaquer à la police. Qui était là en face d'eux à ne rien faire. Donc les images existent.
Oui, puis, honorable. Vous avez rappelé hein, que vous-même, vous avez été VPM de l'intérieur. Hein. Mais qu'est-ce que le pouvoir aurait perdu s'il avait laissé l'opposition faire son sit-in devant les palais du peuple comme elle avait souhaité?
Nous sommes un état de droit. L'état de droit n'est pas un état de désordre. Le gouverneur de la ville a signalé à l'opposition que le palais du peuple était interdit des manifestations politiques. Pour preuve, quelques jours avant, un groupe de religieux avait voulu chuter par là. Ils ont été orientés autrement, vous le savez. Et ils ont obéi, ça n'a pas entraîné des casses comme ça s'est fait avec l'opposition. Nous avons affaire à une opposition qui peine à s'affirmer, qui cherche à semer le chaos, mais je pense qu'ils n'ont pas le peuple avec eux, c'est un petit groupe de gens qui va se fatiguer à un moment donné.
Merci. Merci beaucoup, honorable Peter Kazadi. Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle est votre lecture de cette situation?
Bien, la lecture, c'est que nous sommes en train de prendre un cran de plus. On est passé de l'escalade verbale aux villes mortes et aujourd'hui, le cran, il nous amène vers cette logique de confrontation dont tout le monde redoutait. Et éventuellement, des scénarios de plus en plus violents. À la fois dans la confrontation dans la rue, à la fois par la mobilisation des services de sécurité. Et qui nous rappelle les drames de 2015, 2016, 2017. Donc le scénario, il était prévisible. Et puisque la logique reste celle du rapport de force, on l'a rappelé plus d'une fois ici, et qui dit rapport de force dit confrontation.
Voilà. L'objectif de ces sit-ins, hein, selon l'opposition, était de pousser les Sénats à abandonner l'examen de la proposition de la loi portant organisation du référendum en RDC. Mais on vient d'apprendre que la commission PAJ du Sénat a déjà déposé son rapport au bureau du Sénat. Et si le Sénat adoptait ces textes dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, à votre avis, quels seraient les moyens qui resteraient à l'opposition pour poursuivre son action?
Bon, le schéma n'est pas différent de 2016. C'est-à-dire qu'au niveau institutionnel, il n'y a pas match parce que la majorité présidentielle dispose de la marge nécessaire pour qu'au niveau institutionnel, il puisse faire passer les lois qu'il souhaite.
Mais il y avait cette majorité en 2016, mais oui, la majorité avait reculé.
L'enjeu demeure, c'est la souveraineté de la rue. Et donc, tout dépendra de la capacité de l'opposition à monter en cran et à mobiliser suffisamment la population pour amener un rapport de force qui bougerait la logique institutionnelle. Et donc, tant que la majorité, et vous sentez l'honorable Peter le dire, ne se sentirait pas bousculée par une mobilisation populaire, eh bien, ils resteront dans leur logique institutionnelle de continuer à avancer.
Alors, quel aurait été le symbole si l'opposition avait réussi à accéder, n'est-ce pas, au palais du peuple et réussir à faire son sit-in?
Personnellement, moi, je ne pense pas que ça aurait eu un impact plus grand. Ce serait peut-être un message politique, mais c'est peut-être le pouvoir qui tombe dans le piège de la répression systématique et qui donne du moulin à la déclaration. Parce qu'au-delà de la répression ici, il faut suivre les différents communiqués dans les différentes officines, que ce soit Human Rights Watch, au niveau européen, au niveau de la Belgique. Et donc, c'est une attention particulière sur un processus qui, au début, était présenté comme une lettre qu'on enverrait dans la poste, qui aujourd'hui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Le Congo, tant que la logique de la stabilité dominerait, on n'aura pas une forme d'attention diplomatique extérieure. Mais dès l'instant où vous avez le spectre de l'instabilité et donc du chaos, ça va réveiller l'inquiétude et donc de la pression diplomatique. Et ce n'est pas pour rien que le gouvernement a communiqué, juste après, pour parler d'enquête. Et ce n'est pas pour rien que le secrétaire général de l'UDPS, le président intérim, a également communiqué, parce qu'il y a une bataille de rhétorique à faire passer, les narratives à faire passer au niveau international également, au-delà de la répression sur le terrain. Et je pense que cette bataille-là, qui a été gagnée par l'opposition à travers les erreurs de répression systématique.
Voilà, justement, on a suivi toutes ces condamnations au niveau national et international. Est-ce que vous pensez que cette répression pourrait préjudicier l'image du pouvoir en place?
Probablement, parce que le regard dès le départ, c'était le regard d'un président civil démocratique qui n'a jamais pris les armes, qui incarnait une forme plus ou moins de rupture. Et aujourd'hui, plus les rapports vont, les documents, les monitoring vont s'accumuler, plus les rapports vont avancer, plus il y aura de risques, soit d'indexation des personnes, ou même des poursuites judiciaires. On l'a vu dans un passé récent, des gens être condamnés pour obstacle à la démocratie. Donc il n'est pas impossible que demain, si les événements prenaient d'autres ampleurs, qu'on ait soit d'ouverture d'enquête et qui menace donc des personnes. Il y a un risque d'image également pour un pays qui est en recherche de soutien au niveau diplomatique international. Et donc nous sommes dans un processus diplomatique très crucial avec l'agression à l'Est. Le pays a besoin de mobiliser des soutiens et donc la crédibilité, l'image compte. Et donc à un moment donné, le pays peut également se mettre en difficulté à mobiliser certains soutiens face au rétrécissement ou aux répressions à l'interne de notre système politique.
Voilà. Que répondez-vous à la réaction de cet auditeur qui dit « L'UDPS au pouvoir aujourd'hui est différente de l'UDPS qui prônait la tolérance hier lorsqu'elle était encore dans l'opposition ».
La difficulté que nous avons au Congo, c'est que les pratiques politiques n'évoluent pas. On change peut-être des régimes, mais les pratiques ne changent pas. Et donc, on n'est pas très loin des pratiques que l'on observait il y a quelques années. Et donc, l'UDPS opposition avait des pratiques contestataires que l'opposition d'aujourd'hui entend reproduire et arrive au pouvoir les pratiques de répression que l'UDPS qui vient condamner. Notre grande difficulté, c'est l'incapacité de la classe politique à se réinventer et à réinventer des pratiques modernes. Et donc, nous réchauffons les vieilles pratiques, les vieilles recettes, tant dans l'opposition que dans le pouvoir.
Il y a de cela quelques jours, l'Église du Christ au Congo, l'ECC, avait recommandé un consensus comme préalable, n'est-ce pas, à toute réforme constitutionnelle. Lorsque vous voyez comment les choses se passent, est-ce qu'on peut dire que cette Église a été écoutée?
Non, pas du tout. L'ECC a voulu avoir un point de vue plus ou moins diplomatique et presque neutre, dans un contexte où beaucoup attendaient un positionnement beaucoup plus franc de l'Église. Je pense qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ne seront pas écoutés parce que les logiques des intérêts politiques ne suivront pas cette logique, je dirais, presque tiède que prend l'ECC. Et donc, à défaut d'avoir une position plus ou moins franche, elle aura donné une voix qui existerait, qui restait une voix médiane, mais c'est la voix des pacifistes dans un environnement où de plus en plus ce sont les faucons, les radicaux qui prennent le ton.
Merci. On tourne maintenant la parole aux auditeurs qui veulent donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Honorable Jean-Baptiste Kasekwa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kasai Central.
Bonsoir Radio Kapi, c'est Xavier Tchibassou de Kananga au Kasai Central. Les sittings de l'opposition laissent une mauvaise impression sur le terrain. Ce n'était pas une action calme et pacifique. On a vu des actes de provocation. On a vu des scènes préparées pour choquer. Des histoires de balles qui ne tiennent pas. Des habits tachés de peinture présentés comme du sang. Comment peut-on prétendre avoir reçu une balle dans la cuisse alors que le pantalon n'est pas troué? Ou avoir été blessé à la tête sans qu'aucune blessure ne soit visible? Cela montre que le but n'était pas le dialogue, mais les mensonges. Oui, l'opposition a le droit de parler, de marcher, de critiquer. Mais quand on cherche la bagarre juste pour accuser après, on défend plus la démocratie. On met les pays en danger. Cette façon de faire est grave. On joue avec la paix au Congo. Elle trompe les gens au lieu de proposer des solutions. L'État doit garder l'ordre. L'opposition doit respecter les règles. Le Congo n'avancera que si la politique se fait dans la vérité, sans piège et sans manipulation. Merci.
Jean-Baptiste Mouino, c'est quoi?
Mais Janvier n'a pas raison lorsque dit que l'opposition ne fait pas de propositions de solutions. Le président élu Martin Fayoulou s'est humilié. Le 5 juin, il est parti rencontrer Félix. En février dernier, il a rencontré à nouveau pour lui dire que le pays était en danger et que l'initiative du pacte social portée par l'Église catholique et l'ECC était salvatrice pour notre pays et qu'il fallait à tout prix saisir l'engagement du président Lorenzo afin de réunir toutes les forces, y compris ceux qui occupent l'Est de la RDC, afin que rapidement on obtienne la réunification du territoire national, qu'on définisse des mécanismes de sécurisation de Congolais et du territoire. Mais en réponse à cette démarche d'humilité manifestée par le président Martin, voilà comment le pouvoir de M. Félix a organisé la répression pour l'humilier, l'anéantir, le neutraliser, ainsi que d'autres leaders de ce 64. Janvier parle de mensonges, mais j'étais personnellement dans la manifestation. Je tenais un calicot sur lequel, parce que je porte aussi le fardeau de la guerre du Nord Kivu, du Sud Kivu, les massacres à Beni, à Nitouri, sur nos calicots, nous avons écrit. Félix a promis le 21 juin 2021. Si je ne redonne pas la paix dans l'est de la RDC, j'aurai échoué mon mandat. Et nous disions, comment quelqu'un qui n'a pas réussi deux mandats peut-il être poussé par des parlementaires à solliciter un mandat, un troisième mandat interdit par la Constitution? C'est inacceptable. Et donc, que nous portions des calicots, et les images sont là, nous étions en chemise toute blanche pour montrer que nous sommes pour la paix. Et c'est la tenue de toutes nos manifestations. Nous avancions pour nous asseoir devant l'esplanade du palais du peuple. Et donc, lorsqu'il parle de mensonges, tel que Kabuya l'a dit et la ministre Tchela, la vice-ministre Tchela, ça nous rappelle c'est que les soldats corrompus au dire de la résurrection de Jésus, on les a corrompus, leur donnait une forte somme d'argent pour dire que les disciples seraient venus la nuit pour voler les corps du Seigneur Jésus. Et cette nouvelle s'est répandue jusqu'à ce jour. Donc, après avoir commis un crime, les auteurs du crime se moquent des victimes pour dire qu'on aurait amené le sang des chèvres et des moutons. Mais nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. Notre détermination est inébranlable. Et contrairement à ce que Peter Kazadi dit, que c'est une opposition qui va s'essouffler bientôt, bien au contraire, les deux manifestations, la ville morte du 3 juin et les sit-ins d'avant-hier 12, montrent que, en fait, si le Sénat ne se ravise pas pour revenir à la sagesse, comme dit Tade de Kengo le 25 janvier 2015, Kengo a dit, nous avons entendu la voix de la rue. Il a parlé à Lingala, à Chikongo et à Français. Et on a retiré l'article révoltant qui devait être introduit dans le projet de loi électorale. Si aujourd'hui Sam Maloukonde ne se ressaisit pas et que demain Félix promulgue cette proposition de loi, cette loi référendaire, lorsqu'ils vont passer à la nouvelle étape, convoquer la fameuse assemblée constituante, eh bien, notre mobilisation va s'amplifier davantage. Déjà, à l'issue de l'évaluation de demain, mardi, la coalition article 164 va annoncer des actions futures qui vont se tenir dans toutes les villes et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo.
Merci.
Ce projet de changement constitutionnel, c'est un mort-né. Je l'ai dit à Peter Kazadi, qui est un ami, qu'il prépare un dauphin comme l'ANC en Afrique du Sud, comme Chama Chama Pindouzi en Tanzanie, comme Patrice Talon l'a fait au Bénin, qu'en 2028, après avoir réunifié le pays, l'UDPS présente un dauphin à Tshisekedi.
Merci.
Et la population va trancher.
Merci. Peter Kazadi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Isangi dans la province de la Tshopo.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tshopo. Tout en saluant les combats de l'opposition pour la défense de ses convictions et en compatissant avec les familles des victimes ainsi qu'avec les blessés de cette manifestation, il faut reconnaître que les événements survenus à Kinshasa démontrent une fois de plus que la culture démocratique et le respect des droits humains demeurent fragiles en République démocratique du Congo. Hier, dans l'opposition, l'actuel pouvoir dénonçait avec vigueur la répression des manifestations citoyennes, notamment lors des contestations liées à la révision constitutionnelle. Des noms comme Thérèse Kapanga, la Rossi Mukendi et plusieurs militants de l'IDPS restent gravés dans la mémoire collective. Aujourd'hui, les mêmes accusations sont portées contre ceux qui gouvernent. Cette réalité pousse à une interrogation fondamentale. Le véritable problème de la RDC réside-t-il dans les textes et la constitution, ou plutôt dans les comportements et pratiques de la classe politique qui les applique?
Honorable Peter Kazadi.
Et Guy, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire à l'honorable Kassé que le président Félix ne cherche pas un troisième mandat. L'IDPS, nous sommes fondés autour du thème l'état des droits, la démocratie, la promotion des droits de l'homme. Et nous en sommes là. Le président Tshisekedi n'a pas dit qu'il va briguer un troisième mandat qui n'est pas, qui reste prévu par la Constitution. Ça, c'est un narratif conçu par l'opposition pour faire croire à l'opinion que le président Tshisekedi veut un troisième mandat. Il n'en est pas question. Donc, le président Tshisekedi va respecter la Constitution jusqu'à sa dernière lettre. Maintenant,
mais si la population lui demande d'avoir un troisième mandat...
Ça ne sera pas le troisième mandat. Cette constitution ne permet pas à la population de demander à un président de la République d'aller au-delà de son mandat. Mais si le peuple décide par voie de référendum de voter une nouvelle constitution, d'ailleurs qui doit être adaptée aux réalités actuelles parce que la constitution en vigueur résulte d'un compromis entre belligérants, puisque à travers le monde, la Constitution est définie comme un pacte social qui consacre les rapports de force et les consensus dans une période déterminée. Hier, c'était des gens qui avaient pris des armes, qui ont conçu cette Constitution, qui n'avaient reçu aucun mandat du peuple. Nous, l'IDPS, nous avions refusé de l'adopter à l'époque, mais en républicain, nous avons quand même accepté que ces effets se produisent sur nous parce que les peuples souverains s'étaient prononcés en sa faveur. Aujourd'hui, nous constatons que cette constitution ne répond plus.
Et donc, on ne vise pas un troisième mandat, on vise un nouveau mandat. On fait les mandats à zéro.
S'il vous plaît, je réponds au narratif de l'opposition qui veut faire croire à l'opinion que le président Tshisekedi veut violer. Ils ont même prévu de déposer une plainte au motif que le président Tshisekedi aurait violé la Constitution. Nous attendons voir les termes de leur plainte. Nous nous réservons tous les droits de faire une action pour dénonciation calomnière si jamais leurs accusations s'avéraient non fondées. Ce n'est que de la bonne guerre. Donc, sur ce point-là, qu'on retienne que le président Tshisekedi n'est pas dans la logique du troisième mandat. Donc, que cela soit retenu et c'est clair. Maintenant, j'ai entendu dire que l'auditeur a dit qu'il saluait les combats de l'opposition, tout ça. Mais cette opposition s'appelle aujourd'hui l'article 64. L'article 64 fait un devoir au peuple congolais de s'opposer à un groupe ou tout groupe d'individus qui tenterait de renverser les institutions en place. Nous avons à l'est du pays le fief électoral de mon frère, ça fait quoi, Jean-Baptiste, occupé aujourd'hui par les M23, où on tue nos mamans, on tue nos filles, on les viole, on tue nos frères, nos grands-parents. Lui ne s'est jamais constitué en un cartel pour combattre ceux-là qui violent délibérément la Constitution en tuant des Congolais. Il a choisi, il a trouvé bon de se constituer que contre les pouvoirs en place pour envoyer d'autres Congolais dans la rue avec des machettes afin qu'ils puissent tuer d'autres Congolais, soit-il des policiers ou des militaires. Donc, ce sont des morts de plus que l'honorable Kasekwa est en train de soutenir sur le territoire congolais. Et face à cette situation, aucun gouvernement au monde ne peut rester bras croisés, laissant les gens jouer les jeux de rebelles, parce que aujourd'hui, c'est 64 qui refusent de condamner la rébellion, qui tue, qui pille, qui vole nos minerais. Nous les considérons comme une position avancée du M23 au cœur de Kinshasa.
Merci, honorable.
Et la réaction sera institutionnelle, ferme, parce que nous n'avons pas un État à vendre.
Merci, honorable. On a compris. Voilà. Christian Moleka, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Vanessa Yamengebo depuis Kinshasa. Deux récits s'affrontent, d'un côté l'opposition et les ONG des droits de l'homme dénoncent des morts par armes à feu, plusieurs blessés dans les figures politiques et un usage disproportionné de la force. De l'autre, le gouvernement reconnaît des blessés mais met en avant des dégâts matériels significatifs, véhicules incendiés, destruction des biens publics et privés. Trois constats objectifs s'imposent. Premièrement, la constitution garantit la liberté des manifestations pacifiques mais dans le respect de l'ordre public et de la sécurité des biens. Deuxièmement, les forces de l'ordre ont le devoir de proportionnalité même face à des débordements. Troisièmement, personne ne conteste qu'il y ait eu des blessés des deux côtés. Dès lors, les vraies questions pour sortir des postures politiques sont les suivantes. L'enquête annoncée par le gouvernement serait-elle indépendante, associée à sociétés civiles et experts internationaux? Qui a tiré et dans quelles circonstances exactes? Comment concilier les droits de manifester et la prévention des violences sans miser l'opposition?
Christian Moleka.
Merci René Saya pour votre intervention. Effectivement, les postures, les récits narratifs, c'est une continuité du combat politique, cette fois-ci pour influencer à la fois la perception au niveau interne et international. Donc c'est de la continuité du combat politique autrement. Et donc chaque parti tentera, à la lumière de ses intérêts, soit d'amplifier, soit de réduire l'incidence. Ça pourrait être la même chose sous le nombre des gens qui auraient manifesté. L'opposition pourrait dire 20 000 ont manifesté, le pouvoir vous dira 4 000. Donc c'est un élément de la continuité du combat politique. Maintenant, comment concilier le respect du droit de manifester, la proportionnalité? Mais c'est un défi pour la culture politique au Congo. C'est-à-dire, dès l'instant, nous sommes tous d'accord sur les principes de ce qui dirige la République et que nous avons conscience que l'expression de la diversité fait partie de la démocratie. Notre culture politique nous aurait dû nous amener à garantir un cadre d'expression. Notre vrai défi, il est à la fois en termes de culture d'État, de culture politique, mais il est également en termes de consensus républicain sur ce que nous voulons pour que le pays puisse avancer. Là, nous avons une question qui polarise, une question constitutionnelle comme en 2015 qui polarise et qui divise et qui devient source de tensions politiques. Dès l'instant où les Congolais ne réussiront pas à construire un consensus républicain sur les questions sur lesquelles nous devons avancer, eh bien, nous aurons toujours des phases malheureusement conjoncturelles, des tensions entre opposition et pouvoir, qui ne tourne pas sur les divergences de projets ou des gestions, mais qui tournera sur des questions fondamentales de conduite de la République et qui nous partagent et qui nous divisent. Donc maintenant, est-ce qu'on pouvait l'éviter? Oui, on peut l'éviter si les Congolais acceptent de se parler, par exemple, de se parler sur les options fondamentales. Il y a des possibilités de se parler, à la fois au niveau institutionnel qu'au niveau intrationnel. C'est la possibilité à maintenir ce canal. Mais si on construit un système à la fois sur
la polarité, sur la, le discours radical, mais en même temps sur le rapport de force et donc la confrontation. Il faut savoir que la confrontation n'a pour conséquence que la violence. Et donc malheureusement, la violence va s'exprimer soit à partir de la rue comme violence protestataire, soit à partir d'une violence institutionnelle incarnée par la police et sa vie de sécurité.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez conclure, Christian Moleka. Est-ce qu'on peut entrevoir les scénarios de 2015 lorsque le Sénat avait, n'est-ce pas, refusé de faire passer cette loi, lorsque donc le pouvoir avait reculé devant les pressions de la rue? Est-ce qu'on peut entrevoir ces scénarios-là?
C'est une question de rapport de force. Tout dépend de la capacité de l'opposition à établir un rapport de force. Le Sénat en 2015 ne l'a pas fait parce qu'elle a changé d'avis simplement. C'est parce qu'il y a eu une mobilisation de la rue qui a contraint le Sénat à reculer. Donc si le rapport de force aujourd'hui, à la fois diplomatique et politique, et même de la rue, n'est pas en faveur de l'opposition, le pouvoir fermera les yeux et les oreilles et continuera à avancer.
Merci. Jean-Baptiste Kasekwa, ça fait aussi votre conclusion. Jusqu'où l'opposition compte-t-elle aller?
Nous allons mettre en échec ces projets. Peter Kazali vient de le dire, ils veulent tuer la constitution à vigueur pour annuler, pour eux, annuler les deux mandats que vient de consommer M. Félix, remettre les compteurs à zéro, lui donner un nouveau mandat, un mandat de 7 ans. Les députés de l'AFCDC ont dit, désormais, le président de la République devrait être élu par les députés et sénateurs, c'est-à-dire institutionnaliser la corruption de la même manière que ça se passe pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs des provinces, de sorte qu'on dépouille le peuple congolais de toute sa souveraineté. C'est ça le schéma de l'UDPS. Et nous n'allons pas laisser faire. Merci. Donc, d'ici là, demain, la coalition article 64 va annoncer la suite des actions. Mmh. Et comme je l'ai dit, lorsque Félix va se mettre à convoquer la fameuse assemblée constituante composée de députés sénateurs, de députés provinciaux et des conseils municipaux de 2023, le peuple va intensifier les actions pacifiques à l'endroit de tous ces membres de l'assemblée rebelle. Et si Félix ne se ravise, comme l'a dit quelqu'un, à force d'entretenir la milice force du progrès, eh bien, Félix risque de partir avant même la fin de son mandat en 2028.
Peter Kazadi, votre mot de la fin? Peter Kazadi, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Votre mot de la fin, rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Rapidement.
Oh, malheureusement. Nous sommes déjà à la fin.
Oui, on est à la fin. Vous avez 30 secondes. Parce qu'on n'a pas le temps.
Ok. Ben, ce que moi, je vais dire à nos amis de l'opposition, nous avons milité longtemps pour l'instauration de la démocratie dans ces pays, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons instaurer la dictature. Nous avons choisi de bâtir un état de droit. Je leur demande de s'y conformer. Ils ont la liberté de manifester parce que c'est garanti dans notre constitution. Et ils ne peuvent pas nous empêcher, nous, de réfléchir sur l'avenir de notre pays.
Merci, on a compris. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, Peter Kazadi et Christian Moleka. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Dona Madimba et Benjamin Moudoumbi qui l'ont réalisé, Jean-Claude Nchala et Dieudonné Nyangasa qui étaient à la technique, et Chembe Eloku qui a assuré le live de cette émission. Merci aussi à Grace Amzati qui a contribué à la production de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.